Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, bienvenue et merci d'être à notre écoute. Toujours hospitalisé, le pape François répond bien à la thérapie. Le Saint-Père restait sous surveillance des médecins. Le pape François qui, de la polyclinique Gemelli où il se trouve, a procédé à quelques nominations samedi. Il a nommé Monseigneur André Gueye, archevêque de Dakar au Sénégal, et le père Ignatius Anipou, évêque des Maradis au Niger. Clôture du jubilé des diacres dimanche avec l'ordination des diacres permanents. Nous en parlerons dans l'actualité de l'Église qui nous conduira aussi au Zimbabwe. L'actualité sociale et politique en Afrique nous conduira notamment au Soudan, en République démocratique du Congo, au Sénégal. Au cours de cette édition, vous suivrez également la méditation avec les lectures du 7e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. La guerre à l'est de la République démocratique du Congo répond à une idéologie expansionniste qui n'est pas celle des M23, mais du gouvernement rwandais, un plan préparé depuis des décennies. C'est l'avis du politologue congolais Toussaint Kafarire. Vous le suivrez dans cette édition. Encore une fois, bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Stanislas Kambashi.
Ouvrons l'actualité de l'Église par la semaine du pape et voyons comment s'est passée cette semaine du pape François, Jean-Benoît Harel.
Hospitalisé depuis vendredi 14 février à la polyclinique Gemelli de Rome, la semaine qui s'achève a été marquée essentiellement par le suivi de l'état de santé du Saint-Père, sur lequel le directeur de la salle de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni, a fait le point chaque matinée et soirée. Les fidèles du monde entier sont de cœur avec le pape et ne cessent de prier pour son rétablissement. La nuit de vendredi à samedi s'était bien passée. Au cours du point de presse de vendredi soir, les médecins ont déclaré que le pape répondait bien à la thérapie appliquée, mais qu'il n'était pas encore hors du danger. Le pape François, qui a 88 ans, est hospitalisé depuis la polyclinique Gemelli de Rome. Les médecins lui ont diagnostiqué une pneumonie bilatérale. Chaque jour, le Saint-Père reçoit l'Eucharistie et occupe ses journées, notamment avec des lectures et la prière. Entre-temps, des messages de proximité et les appels à la prière continuent d'être partagés sur les réseaux sociaux et les médias pour la santé du pape, depuis son hospitalisation à Gemelli. Parmi ces messages, signalons celui des épiscopats d'Afrique. L'Église en Afrique et dans les îles continue également à suivre avec attention et une prière fervente les jours d'hospitalisation du pape François. C'est ce qu'a révélé le message du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, SEAM, diffusé le 19 février. Il a exprimé son soutien et réconfort à l'évêque de Rome. Bien que toutes les activités de François aient été suspendues en raison de son état de santé, le pape ne cesse de rassurer le monde de ses ferventes prières, tout en demandant de continuer à prier pour lui. Dans la catéchèse qu'il a préparée pour l'audience générale du mercredi 19 février, finalement annulée mais publiée, l'évêque de Rome a exhorté les fidèles à suivre l'exemple des rois mages, ces pèlerins de l'espérance, et à adorer Dieu dans sa petitesse et dans sa royauté qui ne nous écrase pas. Dans l'après-midi de mercredi, le pape a reçu la visite de la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, avec laquelle il a passé 20 minutes en privé.
Et de la polyclinique Gemelli où il se trouve, le pape François a procédé samedi à quelques nominations, notamment au Sénégal et au Niger. Jean-Benoît.
Oui Stanislas, le Saint-Père a accepté la démission au gouvernement pastoral de l'archidiocèse de Dakar, au Sénégal, présentée par Mgr Benjamin Ndiaye. Comme successeur, le pape François a nommé Mgr André Gueye, l'actuel évêque de Thiès et administrateur apostolique de Saint-Louis, toujours au Sénégal. Au Niger, François a accepté le renoncement au gouvernement pastoral du diocèse de Maradi, présenté par Mgr Ambroise Ouédraogo. Et comme successeur, il a nommé le père Ignatius Anipou, missionnaire d'Afrique. Il est actuellement délégué du provincial de l'Afrique de l'Ouest et directeur de l'Institut de formation islamo-chrétienne de Bamako, au Mali.
Merci Jean-Benoît. Autre nouvelle du Vatican, le 4e événement thématique du jubilé de l'espérance est consacré au diacre. Du 21 au 23 février, nombreux d'entre eux ont participé à diverses activités. Samedi, les participants au jubilé ont franchi la porte sainte de la basilique Saint-Pierre, tandis qu'une conférence sur les rôles des diacres dans l'église synodale s'est tenue dans l'auditorium de la Conciliazione à Rome en fin de matinée. Pour conclure la journée, une veillée de prières a été proposée dans la salle Paul VI au Vatican. Le dernier jour, dimanche 23 février, 23 diacres seront ordonnés au cours d'une messe dans la basilique Saint-Pierre, présidée par les proprefets du dicastère pour l'évangélisation, Mgr Rino Fisichella, délégué par le pape. La salle des presses du Saint-Siège l'avait en effet annoncé dans un communiqué mardi en raison de l'hospitalisation du pape François à la polyclinique Agostino Gemelli. réaffirmation de l'engagement à cultiver la paix à travers les religions. Cette question a été abordée lors de la réunion annuelle entre les dicastères pour les dialogues interreligieux et les bureaux pour les dialogues interreligieux et la coopération du Conseil œcuménique des Églises. Rencontre qui s'est tenue du 17 au 20 février au siège du dicastère au Vatican et qui a examiné l'impact des initiatives conjointes passées en notant les activités interreligieuses des organismes respectifs. C'est ce qu'a révélé les communiqués des presses du dicastère pour les dialogues interreligieux publiés vendredi. L'actualité de l'Église en Afrique nous conduit au Zimbabwe. La commission épiscopale Justice et Paix de ce pays d'Afrique australe a félicité le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa pour avoir signé un projet de loi qui abolit la peine capitale dans ce pays. Le président Mnangagwa a signé le projet de loi sur l'abolition de la peine de mort le 31 décembre 2024, mettant ainsi fin à la loi qui avait été introduite pendant la période coloniale. Actualité sociale et politique en Afrique. La famine gagne du terrain au Soudan où se déroule l'une des pires crises humanitaires de la planète. Une situation causée par la guerre entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide qui ravagent le pays depuis bientôt 2 ans. Les explications d'Augustine Passili.
Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric, a confirmé mercredi qu'il existe des preuves raisonnables de conditions de famine dans au moins 5 zones du Soudan, les camps de Zamzam, d'Abou Chouk et d'Al Salam au nord d'Arfour, ainsi que 2 localités situées dans les monts Nouba. Un nombre record de 4,7 millions d'enfants de moins de 5 ans, de femmes enceintes et allaitantes et de jeunes filles souffrent de malnutrition aiguë, a ajouté le représentant de l'ONU. La famine a été déclarée dès le mois d'août dans le camp de Zamzam qui accueille le plus grand nombre de déplacés du pays. Ce camp a été bombardé la semaine dernière par les forces de soutien rapide faisant au moins 31 morts et 81 blessés, selon le directeur général de la santé du Nord Darfour. Beaucoup de déplacés mourront dans les prochains jours à cause du manque d'eau et d'accès à la nourriture à la suite de la destruction quasi totale du marché, prévient une travailleuse humanitaire basée dans la ville voisine de Tawila. En attendant, les survivants sont rendus à se nourrir de coques d'arachide mélangées à de l'huile. Malgré les appels au cessez-le-feu durant le mois sacré du Ramadan, cette perspective semble peu probable, alors que l'armée et les paramilitaires s'apprêtent à annoncer chacun leur propre gouvernement. Addis Abeba, Augustine Passy pour Radio Vatican.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné vendredi pour la première fois directement le Rwanda pour son soutien au M23 qui continue son avancée dans l'est de la République démocratique du Congo face à une armée congolaise en déroute. La résolution adoptée à l'unanimité condamne fermement l'offensive et l'avancée en cours du M23 au nord Kivu et au sud Kivu avec les soutiens des forces de défense rwandaises dont 4000 soldats appuient les M23 selon les experts de l'ONU. La résolution réclame également le retrait du M23 des territoires dont il a pris le contrôle, notamment Goma et Bukavu, et appelle les forces armées rwandaises à cesser leur soutien au M23 et à immédiatement se retirer du territoire de la RDC sans précondition. Le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a qualifié vendredi de particulièrement catastrophique et inquiétant le rapport sur la gestion des finances publiques du pays entre 2019 et 2024 sous l'ex-président Macky Sall, appelant les citoyens sénégalais à un vrai sursaut. La vérité finit toujours par rattraper le mensonge. Ce qui ressort de ce rapport est particulièrement catastrophique et inquiétant et nécessite de la part de nous, citoyens sénégalais, un vrai sursaut, a-t-il lancé lors d'une séance des questions d'actualité à l'Assemblée nationale. Le père jésuite Jean-Paul Savy nous introduit à la méditation avec les lectures du 7e dimanche du temps ordinaire, année liturgique C.
Chers frères et sœurs, en ce 7e dimanche du temps ordinaire, les textes bibliques nous invitent à une méditation plus profonde sur la manière dont nous devons agir envers le prochain et plus particulièrement envers ceux qui nous ont fait du mal ou ceux qui nous font souffrir. La parole de Dieu en ce dimanche peut nous déconcerter. Elle peut même sembler irréaliste. Mais face aux réalités que nous vivons, cette parole de Dieu peut résonner avec force dans nos cœurs parce qu'elle s'oppose à notre esprit de vengeance et à notre volonté de nous faire justice. L'enseignement de Jésus nous lance donc un défi. Dans un monde où la violence et la haine semblent parfois prendre le dessus, comment vivre l'appel à aimer ses ennemis? La première lecture nous présente une scène pathétique. L'histoire de David et Saül nous plonge dans un contexte de conflit, de jalousie et de rivalité. David, persécuté et pourchassé par Saül, a l'occasion de se venger, mais il refuse de rendre le mal par le mal. David a choisi de faire confiance à Dieu plutôt que de se laisser emporter par l'esprit de vengeance et de colère. C'est un choix assez difficile, mais c'est ce choix qui nous ouvre un chemin de paix, de réconciliation et d'espérance. La situation de David est peut-être aussi la nôtre aujourd'hui. Il est bien tentant de céder à la haine et à la vengeance, de couper les ponts, de tout faire pour ne plus jamais voir ceux qui jadis étaient nos grands amis. Mais David nous donne une leçon de sagesse. Nous sommes aujourd'hui appelés à choisir la paix et à refuser la spirale de la violence et des conflits inutiles. Car nous sommes créés pour être heureux, nous sommes créés pour la paix. Le pardon et la réconciliation nous libèrent et nous ouvrent le chemin de la paix du cœur et de la joie de vivre. Dans l'Évangile, Jésus va encore plus loin. Aimer ses ennemis, faire du bien à ceux qui nous haïssent, prier pour ceux qui nous calomnient. Oui, tout cela semble impossible. Comment puis-je aimer ceux qui m'ont fait souffrir? Comment chercher du bien à ceux qui nous ont fait pleurer, à ceux qui ont bouleversé nos vies? Comment prier pour ceux qui veulent notre malheur? L'enseignement de Jésus semble irréalisable. Et pourtant, c'est le cœur même de son message en ce dimanche. En effet, aimer ceux qui nous ont fait du mal, ce n'est pas approuver leur action, mais c'est choisir de ne pas se laisser consumer par la haine et la vengeance. C'est ouvrir notre cœur à un espace de paix, de pardon et de réconciliation. Chers frères et sœurs, en ce dimanche, Jésus nous demande de faire un pas de plus dans notre vie chrétienne. Jésus nous demande de croire plus à la force de l'amour qu'à la vengeance et à la haine. Si c'est difficile pour nous, portons nos regards vers Jésus lui-même, qui sur la croix n'a pas laissé place à la vengeance. Écoutons-le dire « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Pour arriver à cette étape, nous avons besoin d'un changement profond. Voilà pourquoi saint Paul nous invite à être à l'image du Christ, c'est-à-dire à devenir vrai chrétien. Cela implique donc de renoncer à la haine, à la violence, à l'orgueil et à la vengeance pour nous revêtir d'amour, de paix et d'humilité. Cette transformation spirituelle est un chemin exigeant, mais c'est la voie qui nous conduit à la véritable liberté, à la paix du cœur et à la joie de vivre. En ce dimanche, demandons à Jésus de nous donner la force d'aimer comme il nous aime, de devenir miséricordieux comme le Père est miséricordieux envers chacun de nous, que nous puissions nous engager, chacun à son niveau, à construire un monde plus pacifique, plus juste et plus fraternel, et que la Vierge Marie, Reine de la Paix, intercède pour nous. Amen.
La guerre à l'est de la République démocratique du Congo répond à une idéologie expansionniste qui n'est pas celle des M23, mais du gouvernement rwandais à qui les quelques Congolais cooptés servent des supplétifs. Ce plan révisionniste de l'histoire et de violence des chartes des Nations Unies a été préparé depuis des décennies. C'est ce que nous dit le père jésuite Toussaint Kafariré, expliquant les soubassements du conflit qui sévit dans l'est de la RDC. Politologue et président de l'African Studies Association of Africa, le père Kafariré appelle les Congolais à l'unité contre les divisionnismes et les partisanismes qui règnent dans les milieux politiques du pays pour faire échec à ce plan.
Quand nous parlons de M23, on risque de faire croire aux gens et au monde, au reste du monde, qu'il s'agit effectivement des Congolais. Je pense qu'il y a quelques Congolais qui ont été cooptés, qui ont saupoudré, si vous voulez, les troupes rwandaises et qui essayent de donner une face congolaise à une agression, une intervention, n'est-ce pas, étrangère. Donc, une fois que j'ai dit cela, je pense que l'idéologie, ce n'est pas du côté du M23 que nous allons la chercher. On a écouté les discours que ces occupants développent chaque fois qu'ils arrivent ou investissent une ville. Les discours, c'est essentiellement de fustiger, évidemment, les méfaits, les abus de pouvoir au niveau du gouvernement de Kinshasa. Ça, tout le monde le sait, tous les Congolais le savaient. Et tous les Congolais qui sont Congolais ont lutté et continuent à lutter de manière démocratique, n'est-ce pas, à ce que cela change. Ce que moi, je trouve comme idéologie, en fait, c'est-à-dire le seul discours qui accompagne ce mouvement, ne nous vient pas du M23 ou de l'AFC. C'est un discours qui nous vient du président Kagame lui-même, qui est le cerveau pensant derrière la rébellion et qui est celui qui donne les ordres. Et donc, c'est question que nous soyons prudents et de ne pas laisser à ce que les discours que fabriquent les politiciens construisent une histoire sociale ou une réalité sociale qui n'en est pas. Bref, c'est une façon de dire que l'idéologie est celle des frontières et celle des déplacements des populations à l'intérieur de la région qui demanderait quand même beaucoup d'expertise et de vérité historique avant que les armes ne viennent résoudre le problème.
Plus ou moins 3000 personnes sont tombées dans les affrontements qui ont précédé la prise de la ville de Goma, selon le rapport des Nations Unies. Vous avez parlé de 4000 ou 5000. C'est un risque que le gouvernement ne peut plus envisager, livrer bataille en pleine ville. Finalement, on peut se demander quelle issue peut-on prévoir à cette guerre si on doit espérer que l'État congolais reprenne le contrôle de son territoire.
Si on avait une solution, on l'aurait déjà appliquée depuis 30 ans. Et nous serions en paix. Moi, ce que j'aime à dire, c'est que nos populations et nos communautés n'ont pas de problèmes entre elles. Les gens se côtoient, les gens se marient, s'intermarient, les gens se parlent, les gens font les commerces ensemble. Le problème, c'est un problème de l'instrumentalisation politique. Et donc, c'est au niveau des politiques que nous devons trouver cette solution.
Et comment l'expliquez-vous?
Comme je disais, il y a un premier niveau, c'est le niveau de la morale. Il est vrai que tous ceux qui ont étudié les théories politiques vous diront que depuis peut-être Machiavel et son livre sur le prince, il y a comme une sorte de divorce entre le vrai fondement moral d'avec la gestion de la chose publique, où Machiavel propose que le prince doit parfois prendre des décisions très impopulaires pour défendre ou construire sa communauté. Et je pense que le président Kagame l'a peut-être bien compris, il est en train de le vivre. Il sacrifie tout ce qui est vérité, tout ce qui est sujet moral pour avancer ses intérêts et protéger ce qu'il appelle sa communauté. Mais je pense que c'est là aussi qu'il y a un problème, c'est le problème de leadership sur le continent africain. Pour être un véritable leader sur le continent africain, je pense que nos autorités doivent se rendre compte qu'il y a une vision beaucoup plus grande, large, englobante, historique qu'ils doivent adopter et ne pas se confiner dans un paroquialisme, si vous voulez, vraiment chauvinisme, nombrilisme qui fait passer un petit groupe au détriment de tous les autres. Ça, c'est un premier élément que je peux dire. Donc, comment revitaliser la vie morale dans notre organisation sociale et politique?
Les Congolais, justement, quel appel pourriez-vous leur faire?
Il faut reconstruire la souveraineté du Congo et je sais que c'est une question très, très difficile. Il faudra que tous les Congolais, en ce moment que nous traversons, qui est un moment sombre, dur à assumer, que tous les Congolais oublient leur particularisme, qu'ils oublient leur ethnicisme, qu'ils oublient leurs intérêts et querelles de chapelle, qu'ils se mettent ensemble comme un peuple, comme une nation. C'est un peuple qui a vécu et survécu beaucoup, beaucoup d'autres épreuves par le passé, et donc c'est un peuple qui est encore capable aujourd'hui de le faire. Vous savez que nous, dans l'Église, nous traversons une année jubilaire qui est un appel à l'espérance. Et en le disant, je pense que le Saint-Père connaît, il est très conscient de toutes les difficultés que traverse l'humanité aujourd'hui.
C'était le Père Toussaint Kafariré, jésuite congolais, directeur du Centre Aroupé pour la recherche et la formation et président de l'African Studies Association of Africa, interrogé par Fabrice Baguendekere.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du service Français-Afrique des Radios Vatican, Stanislas Kambashi, qui vous l'a présenté, vous dit merci de l'avoir suivi Restez branchés sur nos programmes.